Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Communiquez avec eux au 88-933-6577. L'école de moto Centre-Ville recrute.
Parce que ça fait des mois qu'on est loin de Ramadan. Parce qu'il y en a plusieurs qui disent qu'on verra jamais le bout. Parce que pour stimuler l'économie, on a décidé de vous vendre du papier à tamponner. Un bingo, pas pour les doux, mais aussi pour ceux qui aiment têter des popperman. Tous les dimanches, 15 ans, peut-être pas une grosse capacité de charge, mais on peut te faire gagner 2750$.
18 ans et plus, licence 20-20-02-02-85-51-01.
Attention, attention, le fumoir est plus qu'un smoke shop. On est une tabagie, donc on est un service essentiel. Ça veut dire qu'on a le droit de vendre tous les produits disponibles en magasin, tels que articles de vapoteurs, accessoires de fumeurs et tous les petits trucs de culture hydroponique. Le fumoir, pow, pow! On vous attend du lundi au vendredi entre 9h et 19h30 et du samedi au dimanche entre 9h et 17h. Suivez-nous sur Instagram, le fumoir, barantou, smoke shop. On est voisins de la SQDC.
La relève radio, c'est la CGMD
96.9, la radio de Lévis.
La bulle immobilière. La bulle avec
votre animateur
Jean-François Morin.
Jeff Morin.
Courtier immobilier.
Et son co-animateur
Kevin Filion.
À chaque semaine,
on reçoit des experts sur tout ce qui touche l'immobilier.
Et on jase
des questions,
des réponses
pour tout ce que vous devez savoir
dans l'univers immobilier.
La bulle immobilière.
Bienvenue aux capsules de KP Formation d'affaires avec Kevin Pépin. Kevin, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de comment qu'on réfléchit ou comment qu'on partage les profits.
Ouais, fait que moi, j'ai décidé que j'allais prendre 80% des parts de la société et que toi, Kevin, tu vas avoir 15, puis Jeff, tu vas avoir 5.
Parce que je suis un investisseur passif.
Parce que t'es simplement un courtier, Jeff.
Merci, les gars.
Non, non, en fait, c'est... Ben, écoute, c'est drôle, c'est caricaturisé, dans le fond, ce que je viens de dire, mais ultimement, c'est souvent un enjeu qu'on a en partenaire. Donc, comment est-ce qu'on partage les profits avec les investisseurs, ceux qui sont développeurs, ceux qui gèrent les opérations courantes? Donc, c'est souvent une question qui est difficile à répondre. Et, dans le fond, nous, sur notre plateforme en ligne, on propose justement une manière de réfléchir cette répartition-là du profit.
Comment le pondérer?
Ouais, comment le pondérer? C'est sûr que la pondération, tu sais, le pourcentage attribuable peut être vraiment discrétionnaire, mais ultimement, il y a une manière de le réfléchir. Il y a comme un step by step qu'on peut le réfléchir. Et la première question, c'est en fait qui prend le plus gros risque en termes de capital? Donc, c'est triste à dire, mais je veux dire, c'est le montant qu'on investit, celui qui crache de l'argent du capital qui devrait avoir une part qui est plus prédominante.
Fait qu'on donne un exemple, on achète un 6 logements, 600 000, 150 000 de mise de fonds, on est 3 partenaires, je mets 100 000, vous donnez chacun 25 000. Fait que moi, je devrais avoir un plus gros rendement parce que ma mise de fonds est plus importante sur
le... plus grande part, du moins.
Ouais, exactement ça. Si on le regarde juste d'un point de vue risque capital, là, on va racheter d'autres risques et d'autres avantages, en fait, qu'un partenaire peut apporter. Mais admettons, on s'arrête juste à l'élément capital. Oui. Donc, c'est la manière la plus simple de le calculer. Tu mets plus d'argent, tu as plus de part. Mais là, après ça, il y a d'autres choses qui viennent se complexifier.
Parfait. Allons-y avec les autres choses.
Deuxième chose, donc on y va. C'est vraiment par ordre, hein? On monte dans le fond. En fait, on descend en termes de priorité. Donc le premier, c'est vraiment les risques de capital. Le deuxième, c'est les risques de caution. Donc le risque de caution, c'est OK, ben JF, Kevin, on est dans un deal ensemble, on cautionne tout le même prêt. Mais si on cautionne un prêt d'un million de dollars et que moi j'ai 100 000 de valeur nette, toi JF, t'as 800 000 de valeur nette, puis toi aussi t'as 100 000 de valeur nette, qui en réalité prend le plus gros risque de caution?
C'est
JF. C'est JF. Parce qu'on est solidaires ensemble. Donc JF, ultimement, même si dans ce scénario-là, on mettrait un tiers en termes de capital, tu vas quand même prendre plus de risques de caution, tu as une plus grosse valeur nette. Si ça plante ou quoi que ce soit, ben c'est toi qui vas être beaucoup plus au bat, tu as beaucoup plus à perdre. Et ultimement, d'un point de vue bancaire, tu apportes plus de valeur. Parce que pour le banquier, c'est toi en réalité qui viens diminuer le risque. Donc, le risque de caution est très important à prendre en compte.
Puis, il est souvent mis de côté ou du moins pas abordé. Ou
il est presque jamais abordé.
Tu sais, c'est ça.
Exactement. T'sais. On ne l'aborde pas.
Parce que la caution, on se dit, elle ne sera jamais appliquée. Donc, c'est quoi la valeur de ça?
Puis, le réflexe des gens aussi va être souvent, ben écoute, on est 50-50 dans le deal. Fait que, tu sais, on est à 50-50 tout le temps. Mais ça se peut que justement, l'équité ou la valeur nette de quelqu'un va en prendre un plus grand risque par rapport à l'autre.
Là. Exactement. Puis d'ailleurs, si on peut l'appliquer à la pratique de notre propre expérience chez KP Management, on a déjà monté une structure dans laquelle on attribuait des shares pour une caution. On attribuait des shares pour, ensuite de ça, la mise de fonds. Et on attribuait des shares pour quelqu'un qui allait faire le développement de tout le projet. Et, admettons, je me réfère aux dernières années où est-ce qu'on avait vraiment beaucoup, beaucoup d'acquisitions, donc une grosse croissance. Les banques n'aiment pas ça. Simplement parce qu'ils sont là pour gérer du risque. Et la manière qu'on a faite pour pallier à ça, c'est que justement, on est allé chercher quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup de valeur nette, beaucoup de crédibilité, et on a monétisé des shares en fonction de ce qui cautionne les prêts.
Très cool. Puis, mettons, encore une fois, pour revenir à notre exemple, le 6 logements, 600 000, c'est quoi généralement la caution qui est demandée ou qu'est-ce qu'on demande dans un prêt standard à 75-25 comme ça?
Ben un prêt conventionnel, en fait, il n'y aura pas de ratio de pourcentage comme la CHL, admettons, qui demande un pourcentage sur le prêt qu'on demande en termes de valeur nette. Ça va être vraiment le crédit qui va analyser, en fait, la capacité de réinjection des emprunteurs et leur force financière, donc leur valeur nette ensemble. Mais ultimement, si vous avez le capital pour un projet... C'est un très, très gros projet qui dépasse largement vos compétences. C'est ce que vous avez déjà fait dans le passé et que vous n'avez vraiment pas beaucoup de valeur nette, donc vous avez très peu de garanties à donner. Ben effectivement, ça se peut que ça bloque au financement. Ne pas sous-estimer la caution. On a déjà, d'ailleurs, fait d'autres types de projets d'envergure où est-ce que on réussissait à aller chercher des financements très, très agressifs. Parce que on arrivait à la table avec des partenaires qui avaient des très grosses valeurs nettes. Donc, la caution vaut cher.
On comprend que ça diminue le risque du banquier.
Exactement.
Donc,
ça.
Donc, il est prêt à s'avancer sur des conditions de prêt plus
favorables
plus
aussi.
Loin, plus favorables, si on veut. Là.
Exactement.
Puis, est-ce que ça se peut aussi qu'au niveau de la gestion de l'immeuble ou la gestion de la business par la suite, s'il y a des gens qui viennent le prendre, vont avoir certaines shares aussi par rapport
yes.
à ça?
Yes. Donc, premier, risque de capital. Deuxième, risque de caution. Troisième, la gestion de l'actif. Et là, quand je parle de la gestion de l'actif, c'est pas de gérer les locataires. C'est de gérer l'entreprise. C'est de gérer la valeur. C'est gérer l'administration, gérer la fiscalité. Donc, quelqu'un qui a vraiment une vue très, très macro sur tout ce qui se passe. Et ça a une très, très grosse valeur. Donc,
c'est plus intangible.
C'est très intangible. C'est un asset manager.
Que les deux premiers aspects de capital et de caution où là, on s'en...
Non, on rentre de plus en plus vers les compétences. Puis plus qu'on va descendre, plus qu'on va aller vers quelque chose qui est comparable au marché. C'est-à-dire qu'on peut trouver facilement sur le marché. Donc, ça vaut moins en termes de share, en termes de split share. Le gestionnaire d'actifs est vraiment important parce que c'est le maître d'œuvre. C'est lui qui va coordonner le capital, qui va coordonner justement ce que va gérer la relation d'affaires avec le banquier pour le financement, qui va ensuite de ça coordonner sur le terrain l'exécution du projet et tout ça. Et en finalité, l'analyse de tout ça. Donc, il va être le vase communicant, le chef d'orchestre de tout ça, oui.
Puis après ça, est-ce qu'il y a d'autres chairs qui pourraient s'ajouter à ça?
Oui, il y en a d'autres. Donc là, on a dit risque de capital, risque de caution, celui qui gère l'actif, la valeur, et ensuite on a le développeur, donc celui qui a vraiment la vision du projet, celui
l'inventeur fou,
celui qui voit les choses que les autres voient pas.
Ouais, c'est ça.
Donc il va passer devant un terrain, il va voir une pancarte, il va analyser le zonage, il va dire attends un peu ici, je pourrais changer le zonage, je pourrais maximiser telle ou telle chose. Ou il va analyser le marché puis il va voir des bâtiments avec des superficies de terrain qui permettraient de lotir, mettons, le terrain. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très focus sur développement business et qui a une vision, qui voit les choses, qui comprend le marché. Donc là encore, là, ça a une valeur dans un partenariat.
Puis ça, c'est probablement lui qui est le plus dur de comparer au marché. Parce que ça je veux dire, ça se outsource pas ou ça
exactement
ça s'engage pas quelqu'un de l'extérieur nécessairement qui va venir dans ta business puis qui va...
C'est très niché. C'est très niché parce que ça prend quelqu'un qui va comprendre plusieurs dimensions en fait liées à l'immobilier. Et effectivement, le développeur immobilier, celui qui a la vision, qui va exécuter ensuite de ça le projet, c'est pas donné à tous. Donc, ça prend vraiment des compétences qui sont multidisciplinaires.
Puis après ça, il y a d'autres chairs qui vont se rajouter avec...
Ouais, le dernier, c'est celui qui va faire la gestion des opérations. Donc celui-là, évidemment, vous comprendrez que plus qu'on descend, c'est-à-dire qu'on a débuté avec le risque de capital, clairement, on rémunère en share. Risque de caution, on rémunère en share. Gestionnaire d'actifs, on peut commencer à faire une rémunération en share et aussi en capital, donc payer comme un frais. Développeur, la même chose, mais gestionnaire des opérations, là, c'est vraiment plus un gestionnaire immobilier, par exemple. Donc, quelqu'un qui va exécuter sur le terrain, et là, à ce moment-là, c'est comparable sur le marché. C'est-à-dire qu'on peut trouver plusieurs comparatifs. Donc là, à ce moment-là, d'être payé en share, ça devient, à mon sens, beaucoup plus compliqué, là.
Ouais, c'est ça. Fait que comme tu viens gérer, par exemple, les opérations, on paierait, par exemple, une compagnie, pour pas le nommer parce qu'on l'a rencontré à notre émission Gestion M-Côté, qui facture, par exemple, 5%, ben, ce 5%-là, au lieu de le donner à une entreprise externe, c'est qu'on va le donner à la personne qui va gérer les opérations.
Exactement. Donc, on ne paiera pas en share parce que ultimement sur le marché, il y a plusieurs personnes qui offrent ce service-là. On peut le trouver, on peut le comparer. Alors que les risques de capital, de caution, gestion d'actifs, développeur, c'est un petit peu plus dur, en fait, à trouver. Évidemment, les risques de capital et de caution étant les plus difficiles. Mais plus qu'on se rapproche à « je peux trouver des comparables sur le marché qui peuvent… » exécuter, en fait, ce que j'ai de besoin.
Qu'on va payer en capital.
Exactement. On va beaucoup plus les payer en frais. On va les payer en capital et non en share.
Puis comment qu'on gère la personne qui fait de la prospection parce qu'il dit, écoute, les gars, vous auriez pas eu ce deal-là parce que c'est moi qui ai fait de la prospection?
Ben, là, c'est sûr qu'on peut,
Ça peut le développeur, finalement.
Ouais, ça revient dans le fond exactement, le segment beaucoup plus développeur. On pourrait le payer en partie de share ou deal, mais tu sais, c'est parce que aussitôt que tu rajoutes des shares, tu rajoutes une composante administrative. Et ça, les gens, en fond, ils la négligent. Donc, là, faut la mettre dans les livres de minutes. Là, après ça, faut les déclarer à la banque. Là, quand il va avoir, si la personne s'est donné des droits de vote, puis que là, il va avoir des cautions à les mettre, même si c'est minoritaire, va falloir qu'elle signe. Donc, plus que tu vas dans les shares, plus que tu rentres dans une complexité administrative qui n'est pas à négliger. Donc, moi, c'est sûr que quelqu'un qui fait de la prospection et tout ça, j'irais beaucoup plus on paye en capital.
OK, parfait. Sur un deal trouvé, ça vaut pour nous environ 15 000 $. Fait que toi, tu auras 15 000 $.
Encore là, il y a des comparables sur le marché. Oups.
Exactement.
Il y a des gens qui le font puis qui le price. Fait que tu peux te fier à ça aussi.
Exactement ça. Puis tu sais, quelqu'un qui veut te vendre aussi un projet en te disant voici le potentiel du projet, mais tu sais, le projet, même s'il y a un potentiel, tant que le projet n'est pas réalisé, le potentiel n'existe pas encore. Là, ouais. Il y a un risque lié à amener le potentiel à son projet.
Puis question, parce que c'est un segment qui va prendre un petit peu plus de temps, puis c'est correct qu'on prenne plus le temps pour ça aussi, mais de quelle façon qu'on réussit à faire un partage, tu sais, quand on va disposer de l'immeuble, quand on va vendre l'immeuble, parce que vient qu'à un moment donné, oui, on a cautionné, des fois à des moments supérieurs ou inférieurs, mais reste que on a tous pris quand même un risque dans l'acquisition de l'immeuble ou dans l'optimisation de l'immeuble.
Ben, c'est sûr qu'au niveau de la disposition, ensuite de ça, tu sais, ça va être dépendamment comment le capital action a été conçu à la base, là. Donc, tu sais, si on est vraiment dans des actions ordinaires, simples, ou est-ce que tu mets un tiers du deal, je mets un tiers du deal, Kevin met un tiers du deal, ben c'est un
tiers. On s'attend que c'est un tiers, oui.
Un tiers chacun à ce moment-là à la disposition, exactement.
Puis est-ce que ça se peut, par exemple, qu'on va faire l'inverse de ce deal-là, tu sais, je mets 50%, chacun 25-25, mais qu'on arrive à vendre l'immeuble puis qu'on a un profit, par exemple, de 300 000 $.
Oui.
Mais tu sais, est-ce que ça se peut que sur les coûts d'acquisition, ben on va séparer notre split selon notre coût d'investissement initial. Tu sais, par exemple, moi, 50 % chacun 25 %, mais le 300 000, on split à part égale parce que le profit, on le fait ensemble.
Exactement ça. On l'a fait ensemble. Puis c'est là qu'il est vraiment important de séparer celui qui va exécuter ce gain, ce profit-là, dans le fond, est-ce qu'il a été rémunéré? Il a été rémunéré en share ou en capital, puis ensuite de tout le profit résiduel, ben là, il est séparé au niveau des actionnaires. Donc, séparer la partie actionnariat de la partie beaucoup plus fournisseur, exécution est vraiment important.
OK, parfait. Fait qu'on voit que c'est quand même pas simple, hein?
Non.
On veut se lancer dans le partenariat, on veut se lancer en investissement immobilier. Il y a des shares, il y a des partages qui vont se faire au niveau du risque, il y a des partages qui vont se faire aussi au niveau du gain, parce que tu sais, on prend pas juste des risques, là, on prend des gains aussi. Puis c'est important que ça soit quand même bien fait.
Exactement. Et juste avant de terminer cette capsule-là, la prochaine capsule, numéro 6, on va justement en parler des modèles de structure de partenariat en termes de shares. Donc, on va vraiment rentrer beaucoup plus dans le concret. Donc,
mais ça, c'est cool d'avoir des modèles. C'est cool de se coller à des modèles parce que c'est un sujet exact. Un peu tricky ou un peu épineux à aborder avec des partenaires parce que là, on est toujours pré-achat. Là. Fait que,
exactement.
On commence à se faire la main un peu puis à dire qui embarque à quel pourcentage. Mais Québécois comme on est, on a toujours un peu de misère à jaser de ça. Fait que si on peut partir sur des bases ou sur des modèles, c'est super intéressant.
Yes.
Good. Kevin, comment qu'on peut faire pour communiquer avec toi ou avoir plus d'informations?
kpmaffaires.com ou sur notre site KP Management. Donc, vous allez retrouver l'ensemble de nos services et notre plateforme de formation en ligne.
Wow, merci Kevin. Merci. Passe une belle journée. Bye-bye.
969 FM, Alternative Radio.
What's cracking, y'all? This is B-Real, the Buddha Master from Cypress Hill. 24-7 Radio 420.
CJMD 96-9, Lévis.
Hey Marcus, on fait un jeu, OK?
Hey, wow, du gros fun.
On joue à... Dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette. Vas-y.
Ben déjà, en partant, je te dirais que ça serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette, comme des produits congelés, des bières de microbrasserie, des charcuteries, plein de produits locaux et même des certificats cadeaux que tu peux mettre le montant que tu veux.
Ah, c'est vrai qu'il y a pas mal d'affaires au dépanneur Lisette. 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre. Allez le voir par vous-même.
Vous êtes courtier ou investisseur immobilier?
Suivez la formation en ligne de KP Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier,
que vous soyez débutant ou avancé.
Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC.
Consultez les offres à durée limitée sur kpmaffaires.com.
Item Construction et Rénovation. Item est une équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. Item vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z. Peu importe l'ampleur de votre projet, que ce soit pour une rénovation, un agrandissement, un ajout d'étage ou un garage, Item saura vous guider et vous conseiller afin de concrétiser avec succès votre projet. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez Item au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com.
L'École de moto Centre-Ville recrute.
Vous êtes passionné de la moto et vous avez toujours eu envie de transmettre votre passion, c'est le moment. L'École de moto Centre-Ville est à la recherche de gens qui veulent travailler dans un environnement sain et amusant. Vous voulez faire partie d'une équipe dynamique et professionnelle de moniteurs, de vrais pros de la moto et vous détenez votre permis depuis plus de 2 ans? Voilà votre chance. Temps partiel, temps plein demandé, avec ou sans expérience. L'École de moto Centre-Ville attend vos candidatures. Envoyez vos CV à www.info@commercialecolemoto.com. Ou communiquez avec eux au 418-933-6577. L'École de moto Centre-Ville recrute.
Vous pensez acheter votre première propriété ou changer de maison? Appelez dès maintenant l'équipe qui donne des résultats, Jean-François Morin, courtier immobilier. Pendant l'achat, l'équipe de Jean-François Morin accompagne ses clients à toutes les différentes étapes. C'est pas juste des balades en voiture, mais aussi un accompagnement complet tout au long du processus. L'aventure d'acheter une propriété, c'est stressant, puis même très angoissant à certains moments. C'est un gros investissement. C'est pour ça qu'il est important de faire affaire avec des pros. Leur objectif est de prioriser vos intérêts, soit que vous puissiez acheter votre propriété à son meilleur prix avec les meilleures conditions, mais surtout en faisant les meilleures vérifications, puis ça, avec le maximum de garanties et de protection. L'équipe de Jean-François Morin est là pour faire de vos intérêts le centre de leurs priorités. En plus de tout ça, toute son équipe rend le processus plus facile et agréable. D'avoir des gens performants qui nous facilitent la vie, c'est vraiment génial. Mais en plus, on sent que toute l'équipe a à cœur notre projet.
Faites comme moi et plusieurs autres clients qui aussi ont fait leur achat avec l'équipe de Jean-François Morin, qui ont pu profiter d'une transaction exceptionnelle.
Vous désirez de l'information sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage, au 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrançoismorin.ca.
Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001.
Tu le sais! Yeah! Tu l'as appris! Yeah!
C'est pas parce que c'est nouveau que c'est nécessairement bon. Oh
yeah! Les gros classiques hip-hop, c'est juste à CJMD
96.9. CJMD 96.9 FM.
La bulle immobilière au 96.9. Alternative Radio.
Hey Kevin, on a acheté un 6 logements ensemble, 600 000. On a fait un partage de risques par rapport à tout ça. Comment qu'on partage les profits maintenant?
Yes. Donc, dans la capsule, en effet, on a discuté de, bon, si chacun, c'est quoi le risque qu'il prenait, c'est quoi le rôle qu'il allait faire. On a partagé ce profit-là en fonction de tout ça, nos shares. Maintenant, c'est quoi le modèle de profit entre partenaires? Donc, il existe différents modèles et on va s'attarder à des modèles qui sont classiques, qui sont, en fait, classiques à de plus en plus sophistiqués. Donc, le premier modèle qu'on va regarder, ben, c'est ce que j'appelle le modèle, ben, un pour un. Donc, ça prend un million, tu mets 500 000, tu as 50%. Donc, c'est une pièce pour une pièce, c'est keep it simple, puis on se casse pas la tête. Donc, c'est le premier modèle. Donc, évidemment, si toi, tu vas exécuter des tâches beaucoup plus précises dans notre partenariat, ben tu vas être rémunéré selon la tarification du marché. Donc, par exemple, tu vas être l'entrepreneur général, ben tu vas être rémunéré sur selon ce que le marché, ce qu'on peut se benchmark. Si tu es celui qui a trouvé le deal, ben on va te rémunérer selon ce qui est benchmark. Si c'est toi qui gères l'actif, ben on va te rémunérer sur ce qui est benchmark. Et si tu gères, en plus de ça, les opérations, tu vas être rémunéré sur ce qui est benchmark. Ensuite de ça, on rentre dans des modèles un petit peu plus complexes où est-ce que, évidemment, si on s'adresse à des investisseurs qui sont moins sophistiqués, ça va être beaucoup plus difficile, en fait, à expliquer. Et plus que on s'adresse à des... plus qu'on a des modèles complexes, et quand on dit complexes, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, ça veut juste dire qu'ils sont qu'ils ont plus de modalités, en fait, et bien là, plus qu'on doit s'adresser à des investisseurs sophistiqués pour être sûr de bien les comprendre. On a le modèle split share. Le modèle split share, en fait, c'est simple. C'est un modèle, par exemple, d'investisseur-développeur. Donc, on pourrait évidemment faire plein de variantes là, du modèle split share, mais si on s'en reste à la base, le modèle investisseur-développeur, c'est tu as des investisseurs. Les investisseurs mettent 100% du capital et ils ont, par exemple, 50% du projet.
Fait que sur notre bloc de 600 000, on met 75 000 $ chaque à deux investisseurs.
C'est ça. Donc, notre bloc à 100 000, qu'il faut mettre 150 000, tu mets... ben non, dans celui-là, il faudrait que tu mettes 150 000.
Un investisseur.
Ouais, un investisseur.
Okay.
Ou des investisseurs. Ouais. Ils mettent 150 000 puis ils reçoivent 50%. Et l'autre 50% va à qui? Ben, va à celui qui va développer le projet au complet. Donc là, si en ce moment vous nous écoutez, vous dites, voyons, ça fait pas d'allure, esprit, il met tout l'argent puis il rajoute 50% du deal. OK, attends. C'est pas juste ça.
Non,
dans le fond, le modèle, il est un petit peu plus complexifié que ça. Il y a une raison derrière le modèle split share, c'est que vraiment le développeur va apporter une panoplie de services, va apporter une panoplie d'expertise et de plus-value, en fait, au projet qui va justifier son share. Et ultimement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 50% de share, il est seulement rémunéré s'il y a un gain. Parce que dans la convention d'actionnaire, évidemment, celui qui va avoir mis 100% de son capital, si on liquide la société, le reliquat va aller à 100% à l'investisseur avant même d'aller au développeur.
Ouais.
Donc, dans notre modèle qu'on achète l'immeuble, on l'achète, puis une semaine après, on le revend au même prix, ben les développeurs n'ont pas encaissé 75 000 $ Ils ont encaissé zéro pantoute parce qu'il n'y a pas eu de gain. Donc, le développeur est seulement payé lorsqu'il va avoir un gain. Et dans un modèle comme ça, le split share, ce qu'on va voir souvent, c'est que, bon, 100% du capital est mis par les investisseurs, ils reçoivent 50% des shares. Et à la fin du projet, lorsque on va refinancer, donc soit un projet d'optimisation ou de développement de un projet de construction, parce que c'est un modèle qui s'applique dans les deux cas, eh bien, les investisseurs vont être prioritaires dans le remboursement du capital. Donc, par exemple, C'est notre projet qui nécessite 150 000 $. On refinance et on fait un levier supplémentaire de 200 000 $. Sur le 200 000, le premier 150 000 $ va aller aux investisseurs parce qu'ils ont une catégorie d'actions qui est prioritaire en termes de remboursement. Et ensuite, à la fin, là, le montant résiduel est splitté entre les investisseurs et développeurs.
Et à 50-50.
À 50-50.
Dans cet exemple.
Toujours dans cet exemple-là. Et où est-ce que ça devient intéressant dans un modèle comme ça? Parce qu'évidemment, il y a toujours la notion de skin in the game. Donc, le développeur ne met pas d'argent. Mais là, on l'a vu dans la capsule précédente, le risque de capital et le risque de caution a plus de valeur. À mon sens, à moi, a beaucoup plus de valeur. Donc, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est que dans un risque, dans un modèle de split share investisseur-développeur, si à la fin du projet, lorsque le refinancement, il y a un solde résiduel à rembourser à l'investisseur, le développeur doit investir le montant subséquent pour être égal-égal avec l'investisseur. Donc, dans tous les cas, à la fin du projet, tout le monde finit égal-égal.
Cool. Mais on avait déjà parlé d'un modèle semblable avec Peter Quinn quand il était venu. Puis, ouais. Puis tu sais, ce qu'il nous apportait comme vision, tu sais, c'est vrai, c'est que finalement, le développeur, lui, son risque est plein jour 1, mm-hmm. tandis que le développeur, son risque s'accentue avec le temps.
Exactement.
Parce que
ça.
Si ça fait un an, deux ans ou peu importe le nombre de mois sur lequel il travaille sur le projet, ben son risque est croissant. S'il arrive finalement à perte au final, c'est lui qui a perdu le plus sur le temps par rapport à l'investisseur initial. Mais tu vois, c'est le genre de modèle qu'on entend souvent les gens échanger, puis ça va toujours d'un bord ou de l'autre. Là. Les gens se demandent toujours, tu sais, je suis le développeur, je suis à 50%, est-ce que je suis en train de m'en faire passer une en bon français? Puis de l'autre côté, l'investisseur, je suis à 50%, c'est tout moi qui mets le cash, est-ce que finalement c'est un modèle fair?
Exactement
la question
ça.
Se pose des deux côtés de la médaille. Là.
Des deux côtés. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est qu'il faut adapter le modèle aussi en fonction du niveau de compréhension puis de ce que les gens sont prêts à faire en business. C'est pour ça que le modèle 1 pour 1 est le plus simple. C'est simple. Ça prend, dans notre exemple, 150 000, ça prend 75 000 à 50%. Tu mets l'autre 75 000 à 50%, puis tout le reste du travail, ben on s'entend sur un montant qui est benchmark. Donc, évidemment, le split share, ses enjeux politiques, si on veut, entre partenaires. Mais c'est un modèle qui est viable, c'est un modèle qui fonctionne. Si tout le monde comprend bien le modèle, puis que les clauses sont claires, ça fonctionne. Mais là, on pourrait complexifier les choses. On pourrait rajouter un autre couche, en fait, qui est ce qu'on appelle un préférentiel avec un waterfall. Donc, un préférentiel avec waterfall, en fait, c'est de dire à un investisseur, toujours dans le, on part du modèle split share, toujours qu'il y a des investisseurs et développeurs. L'investisseur va mettre 100% du capital. Mais là, cette fois-ci, on vient lui dire, écoute, je vais te donner le premier 8% de rendement. Donc, tu as priorité sur les 8 premiers pourcents de rendement. Et par la suite, ce qu'on appelle le waterfall, donc la cascade, c'est de dire, ben, entre le 8 et le 12, donc le 8% à 12%, eh bien, on va faire 75-25. Fait que tu vas faire 75%, tu vas prendre 75% du 8 à 12. Moi, je vais prendre 25%. Maintenant, du 12 à 15, on va faire 50-50. Et du 15 à plus, eh bien là, c'est l'inverse. C'est moi, finalement, qui va faire 75 et toi, tu vas faire 25. Donc, ça va être dégressif pour l'investisseur. Autrement dit, on vient lui donner une priorité dès le début sur les premiers rendements du projet. Et plus que le développeur va performer, plus que là, il va être rémunéré. Donc là encore, c'est un modèle qui fonctionne bien dans la mesure où est-ce que on enligne les visions de tout le monde à la même place, l'intérêt de tout le monde à la même place, qui est de performer sur le projet. Et là, le développeur a vraiment un incitatif à dépasser, en fait, le plus possible les paliers de rendement.
Puis l'investisseur est d'autant plus sécurisé parce qu'il y a un rendement de plus qui vient
que l'investissement
avant
initial,
même de récupérer sa mise de fonds initiale comme dans le split share, finalement. Là.
Exactement. Puis il y a une priorité, en fait, sur le rendement. Tandis que dans le split share, c'est vraiment 50-50. Évidemment, là, c'est le remboursement qui est prioritaire selon le levier lors au refinancement. Mais là, dans ce cas-ci, on vient rajouter une autre complexité. On vient dire non, mais finalement, en plus de ça, c'est que dans le rendement du projet, tu vas te prendre les premiers. Les premières scènes qui sortent, là, c'est à toi. Moi, je suis juste payé quand que toi, t'as fait, dans le fond, ton premier 8%.
Ça serait-tu une erreur de penser que justement les gens qui commencent en investissement immobilier, ça serait peut-être plus adapté d'y aller avec le split share où justement tu n'as peut-être pas la mise de fonds puis ça te permet d'embarquer dans le deal, d'être le développeur par rapport au modèle de préférentiel avec waterfall où peut-être que tu sois un peu plus initié, que tu connaisses tes compétences, où tu saches vraiment que tu peux battre des gros rendements avant de dire j'embarque dans ce modèle-là puis finalement je me donne sur un projet plusieurs mois, puis j'étais pas conscient. Ouais, c'est ça. Puis finalement, j'ai travaillé à faire un rendement seulement pour mon investisseur. Fait que, je sais pas si tu le...
Oui, ben en fait, ces modèles-là doivent être adaptés vraiment avec vos investisseurs. Tu sais, je me souviens d'une consultation qu'on a eue quelques mois où est-ce qu'on avait exactement un exemple comme ça là, d'un investisseur développeur. Puis, tu sais, dans le fond, il voulait qu'on l'aide à se préparer justement avec sa négociation avec son investisseur. Puis c'est tout là qu'on l'a enligné sur démontre que tu es capable de bien gérer le risque. Donc, tu communiques que tu comprends le risque à ton investisseur. Que toi, tu vas être rémunéré quand que lui va avoir été payé. Donc, tu sais, en bout de ligne, là, c'est d'y aller dans un keep it simple le plus possible, puis d'adapter, en fait, votre modèle de répartition de profit entre partenaires selon les partenaires avec qui vous êtes. Parce que c'est pas vrai que vous faites affaire avec un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'industrie de la santé, par exemple, puis que vous allez vous mettre à arriver avec un modèle de waterfall, tout ça, qui va tout comprendre, qui va adhérer à ça. T'sais, peut-être que pour lui, c'est comme, non, alors, c'est trop compliqué. Moi, je veux vraiment un modèle qui est keep it simple, qui est du 1 pour 1 ou à la limite du split share.
Ah, mais c'est bon. Ça donne déjà trois outils, puis trois réflexions ou trois façons de le voir.
Puis d'amener une réflexion à ça, puis d'avoir cette discussion-là aussi avec nos partenaires. Parce qu'au-delà du split, c'est important que tout le monde se sente valorisé aussi là-dedans. Là.
Ouais, c'est ça. C'est une gestion des attentes. Là. On revient souvent à ça. Là. C'est de mettre les cartes sur table, finalement. Puis ce processus-là permet ça aussi.
Exactement.
Ça permet de vraiment dire c'est quoi les enjeux, les peurs, les craintes de tous et chacun, puis d'essayer justement de les pondérer ou du moins de les reconnaître initialement dans les pourcentages.
Hey, Kevin, exactement ça. Je te remercie pour nous avoir donné ces infos-là. Je suis allé un peu vite, mais je te remercie. Mais on parle bien à Kevin Pépin de Copy Management, Copy Formation d'affaires. Si on veut avoir plus d'informations pour communiquer avec toi ou peut-être se renseigner ou se former sur l'investissement immobilier, de quelle façon qu'on peut le faire?
Vous pouvez aller sur notre plateforme de contenu en ligne, kpmaffaires.com ou bien sur notre site Copy Management. Vous allez trouver l'ensemble de nos services.
Parfait, merci Kevin. Passe une belle journée. Bye bye.
C'est JMD. Vous le savez, vos routes refusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, routes refusées vous fera découvrir une foule de plats succulents. Brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusée au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-8. 331-11-11, Saint-Jean-Chrysostome, le 834-33-33. Commande web et promotion disponible au www.routesrefusées.com.
Barbies Resto Bar Grill.
Tous les jours, Barbies vous prépare ses délicieux repas emportés. Même bon goût, même Barbies à emporter. Présentement, obtenez deux repas emportés pour seulement $30. Commandez dès maintenant au Barbies près de chez vous. Barbies.
Ici Josiane Fortin, agente du Fonds Écolidar. Le Fonds Écolidar, c'est une aide financière non remboursable pour les entreprises qui souhaitent adopter des pratiques éco-responsables ou des technologies propres. Vous êtes prêt à passer à l'action? Vous pourriez obtenir jusqu'à 50 % des dépenses admissibles si vous réalisez votre projet avec l'aide d'un consultant. Contactez-moi dès maintenant pour identifier des pratiques adaptées à votre réalité, obtenir un soutien dans la recherche de financement ou trouver un consultant. Josiane Fortin, 418-222-9496.
Vous êtes courtier ou investisseur immobilier?
Suivez la formation en ligne de Capé Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier,
que vous soyez débutant ou avancé.
Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC.
Consultez les offres à durée limitée sur kbmaffaires.com.
Allô, je suis Guylaine et je voulais vous partager une expérience génial avec l'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier. Nous avons essayé de vendre notre propriété depuis plus d'un an et nous n'avons pas eu de résultat, que ce soit par nous-mêmes ou avec un autre courtier. Nous avions été référés à l'équipe de Jean-François Morin par des amis qui, eux aussi, ont vendu leur maison rapidement avec leur équipe. C'est vrai aussi qu'on voit ses affiches et son marketing puissant partout aux alentours, mais aussi sur le web. On a rencontré Jean-François et son équipe équipe et nous nous sommes vite aperçus qu'ils étaient très différents de ce que nous avions l'habitude de voir. Ils proposent un service professionnel, une expérience extraordinaire et on voit que leur marketing vend et que notre projet est pris entre bonnes mains. Ils sont excellents. Nous avons vendu en 13 jours à plus de 98 % du prix que nous avions affiché. L'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier, est vraiment incroyable. C'est un gros wow pour nous. On va faire comme nos amis et on va vous référer assurément.
Vous désirez de l'information sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage, au 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrançoismorin.ca.
Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001.
Le retour du 96.9. Le retour du 96.9. Les salles des nouvelles. Du lundi au jeudi de 15h à 18h. Les salles des nouvelles.
On sait depuis très longtemps, par exemple, que les cas de contamination par surface sont presque nuls. Et ça, à la fin mars, on le savait déjà. Alors, on continue pourtant à avoir des mesures de décontamination des surfaces, de nettoyage à outrance.
Mais nous, ils font des cours de nettoyage de notre épicerie à la télé.
Et pourtant, quand on regarde les données, il n'y a essentiellement pas de cas de transmission par contact comme ça. Donc, c'est pas comme ça que le virus se transmet.
Dans le Purel partout, c'est un coup d'épée dans l'eau.
On se mène du lundi au jeudi de 15h à 18h.
Et nous, sur Facebook, CGMD 96.9.
Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Ah ouais, moi ma mère disait toujours, la vie c'est comme un gros quartier immobilier. Tu sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions.
La bulle immobilière au 96.9 Alternative Radio.
On est sur l'achat ou dans la prospection d'un immeuble, 6 logements, 600 000. Kevin, est-ce qu'on fait affaire avec un courtier immobilier?
Toujours affaire avec un courtier immobilier. Je pense que c'est un des plus gros atouts dans une transaction immobilière. Et justement, dans nos 24 principes de base d'un investissement immobilier, donc capsule numéro 7, on se rapproche de plus en plus de la partie transactionnelle. Et évidemment, dans cette partie-là, ben on parle du courtier et il est indispensable, à mon avis, d'avoir un courtier dans une transaction. Évidemment, ça peut arriver des transactions entre parties là, pour des gens que vous connaissez, que vous faites confiance et tout ça. Mais un courtier, ça apporte tellement de valeur dans votre transaction en multilogement et on va en discuter dans les prochaines minutes.
Justement, juste avant de parler des avantages du courtier immobilier, on aimerait pouvoir parler de KP Management, KP Formation d'affaires. Vous avez monté une structure de formation qui est vraiment intéressante. J'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu d'informations par rapport à tout ça.
Oui, ben en fait, on a une plateforme de formation en ligne qui est justement accréditée par l'OACQ. Donc, pour les courtiers qui veulent faire, par exemple, leur UFC et tout ça. C'est une formation qui fait pas juste faire des vidéos. Vous rejoignez une communauté, des ateliers, des masterminds. Bref, il y a tout plein d'avantages et c'est vraiment à un rapport qualité-prix qui est excellent dans le marché et on bonifie continuellement ces formations-là puisqu'elles sont produites dans notre studio de tournage. On a une équipe à temps plein qui ne fait que ça.
Quand même cool. Puis pourquoi qu'on mettrait un courtier immobilier dans un deal, peu importe la situation ou peu importe le moment où ce que le deal est présenté aux parties, par exemple vendeur ou acheteur?
Ben c'est sûr que le courtier, tu sais, on peut analyser les forces du courtier sur différents volets. Première des choses, si vous êtes quelqu'un qui est plus ou moins à l'aise avec la prospection, ben le courtier évidemment, ben c'est fait partie de son travail de prospecter. Je veux dire, un courtier qui ne sait pas comment prospecter, ça commence mal. Mais tu sais, je me réfère par exemple à une expérience passée où est-ce que on avait une enveloppe de capital à déployer dans un secteur et on a contacté un courtier, on lui a dit écoute, on a une enveloppe de capital à déployer. On veut que tu nous montres une stratégie de prospection pour ce secteur-là. Et là, le courtier nous a vraiment monté un plan de match. Lui-même, il a établi un budget, puis il s'est dit, ben écoute, moi, là, dans le fond, je vous signe un contrat de courtage acheteur et je vais mettre tant de budget, puis je vais envoyer des lettres, je vais faire des appels. Il nous a tout monté, en fait, un processus de prospection.
Parfait, puis très peu sont en mesure de le faire. Puis, tu sais, on est dans une période des fêtes, on est dans une période... puis je parle des enregistrements parce qu'on va passer ça en janvier. Mais nous, comme courtier immobilier, on a aussi accès à des outils de prospection qui peuvent être super avantageuses. Tu sais, par exemple, dans le temps des fêtes, on a envoyé 500 enveloppes à des clients avec des cartes de Noël. Puis on a pu imprimer nos timbres. Puis le timbre coûtait 50% du prix du régulier, qui est quand même super intéressant par rapport à ça. Fait qu'on est capable de venir éliminer des coûts qui sont ultra avantageux par rapport aux clients qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas accès à ces outils de format, ces outils de prospection-là aussi.
Exactement ça. En fait, vous êtes des machines de la prospection. Et moi, personnellement, je trouve que ça a été un des meilleurs moves qu'on a fait de juste appeler un courtier puis de dire, écoute, on a du capital à déployer. Trouve-nous des deals. Je suis prêt à signer un contrat de courtage acheteur. Je sais déjà le secteur que je veux. Je sais déjà les types de profils que je veux. Regarde ma force financière. J'ai déjà un dossier de prêt. Et ça, écoute, je sais que n'importe quel courtier est très prêt à avoir ce genre d'appel-là parce que tu appelles, tu es préparé, tu dis, voici le secteur, vas-y. Amène-moi les deals.
C'est comme amener un enfant dans un magasin de bonbons.
Exactement.
Quand tu appelles, tu as dit ça, honnêtement.
Ben oui, puis tu sais, d'un autre côté, c'est que le courtier sait qui va arriver à une transaction. Parce que, tu sais, tout va en découler de son travail.
Eh oui, tu es déjà prêt. Comme investisseur, développeur, tu es déjà prêt. Et d'ailleurs, de cette expérience-là, on a retiré vraiment des belles transactions. Ça a vraiment, vraiment bien fonctionné. Ça a été une des stratégies, en fait, qui nous a le plus capitalisé dans les dernières années. Puisque, ben, on a eu accès à des deals qui étaient totalement hors marché. Et quand le courtier, en fait, a fait sa stratégie de prospection, il y avait évidemment des réponses positives des vendeurs, mais lui arrivait et disait, écoute, je vais pas mettre ton immeuble, parce que tu sais, souvent, il y a des vendeurs qui vont avoir peur, vont dire, OK, tu vas mettre mon immeuble en marché, il va tordre le processus et tout ça. Il arrivait et disait, non, non, non. Dans le fond, j'ai déjà un acheteur. Il est déjà prêt. Regarde, je t'envoie tout de suite une offre d'achat. On est ready. C'est tout de suite. Donc, ça a très, très bien fonctionné. Donc, ça, c'est vraiment le volet prospection où est-ce qu'un courtier peut vraiment énormément apporter.
Est-ce qu'un courtier peut amener aussi des avantages au niveau transactionnel? Par exemple, la gestion de la transaction, les suivis, les différents intervenants, de faire la coordination de la transaction. Est-ce que ton courtier, puis tu es une personne qui est super impliquée dans tout ça, mais est-ce que ton courtier t'amène une plus-value à ce niveau-là?
Énorme. En fait, moi, je pense qu'en immobilier multilogement, un courtier, c'est plus qu'un vendeur, c'est un consultant. Et au-delà de la partie prospection, il va t'apporter un volet aussi très sécuritaire. Donc, t'assurer que ta transaction, tu as des clauses de sortie s'il arrive quoi que ce soit, mais aussi de négocier, de te représenter. Puis tu sais, moi, ce qui me fait toujours sourire, c'est quand que je reçois, mettons, une offre pour un immeuble qu'on vend ou que nous, dans le fond, on veut acheter un immeuble. Les courtiers ont tous comme, ils présentent toujours leur acheteur. Hein, ils viennent toujours faire un petit pitch de présentation. Alors, mon acheteur, voici son profil et tout ça. Donc, tu sais, juste ça, je trouve que ça vient rajouter une manière de fonctionner qui est très professionnelle. Puis, tu sais, je trouve que ça apporte de la crédibilité à la transaction.
Puis, d'un autre côté, on va se le dire aussi, les courtiers immobiliers qui vont travailler dans le multilogement vont avoir leur réseau d'affaires qui va permettre d'avoir des acheteurs de meilleure qualité puis des vendeurs de meilleure qualité aussi. Parce que, tu sais, dans les deux cas, on doit avoir des individus qui sont qualifiés sur les attentes, dans le sens que ton acheteur, tu veux t'assurer qu'il va pouvoir acheter un immeuble dans le budget qui va répondre, ce que la banque va dire oui, avec les revenus dépenses qui vont en découler, mais tu veux aussi aller en amont avec ton vendeur pour dire, écoute, je comprends que dans ta situation idéale serait d'avoir un prix à ce niveau-là. Par contre, la banque, elle, va le financer à ce prix-là. Il va avoir une prime de marché que les acheteurs vont être prêts à payer, mais ils ne paieront pas la totalité de qu'est-ce que toi, t'as comme ambition. Puis ça, c'est important de le faire comprendre aussi. Puis je pense que le courtier immobilier, au-delà de la transaction, le fait d'être maître d'œuvre dans la transaction va aider énormément. Le pourquoi de deux, c'est que toi, tu te soucieras plus par la suite de tes délais. Tu te soucieras plus des intervenants s'ils ont été mis en relation. Tu te soucieras pas de aucune autre chose que d'avoir un seul maître d'œuvre à appeler puis dire, hey Jeff, t'es rendu où dans ta transaction? Ah, mais parfait, le financement s'est rendu à telle affaire, à telle étape. On a déjà appelé les compagnies environnementales. On a ton inspection qui arrive là. On attend le rapport, etc. C'est lui qui vient gérer cette partie-là. Puis c'est là que le courtier immobilier vient faire une différence. Puis c'est là qu'il faut faire attention aussi du courtier traditionnel où ce que lui va faire une transaction un peu traditionnelle. Tu sais, ils vont mettre ça conditionnel à l'inspection, financement, mais il connaît pas que les délais actuellement de la SCHL sont comme démesurés. Puis qui va faire en sorte que quand il va arriver dans un deal, ben il va venir des fois ajouter des délais supplémentaires qui auraient dû être prévus initialement. Puis quand on est un peu initié dans l'investissement immobilier, ben nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est qualifier le courtier immobilier avant son client. Tu sais, de savoir, écoute, la SCHL, la qualification de l'immeuble, il va manquer une mise de fonds supplémentaire. Qu'est-ce qu'on fait pour le 200 000 qui va manquer? Est-ce que ton acheteur est prêt à le débourser? Fait que, tu sais, nous, comme courtier qui va représenter les vendeurs qui vont vouloir vendre, ben, on a un rôle aussi en amont pour qualifier le courtier et son client pour s'assurer que ça fonctionne.
Éviter de perdre du temps.
Ouais.
Définitivement.
Qualifier les attentes. Moi, j'ai travaillé avec toi, Jeff, justement, dans une vente d'immeuble l'année passée, puis j'avais bien aimé que tout de suite, tu mets de l'avant de le fait qu'elle avait un certain pourcentage attribuable à des rénovations ou de l'entretien ou des choses à mettre au niveau sur l'immeuble pour que ça soit connu des deux parties dès le début de la transaction, pour pas que ça soit un irritant ou que ça soit
un élément de dernière minute,
un élément de négociation. Tout ça, tu sais, juste le fait de mettre sur la table, de le présenter dès le début, tout le monde est en connaissance de cause. Puis après l'inspection, si ça déborde du 1%,
2%. Ben, moi, souvent, je dis dans un immeuble, peu importe lequel, que ce soit une propriété, puis on évite les maisons mobiles à 150 000 parce que les frais peuvent être plus grands, par exemple. Ouais. Mais du moment où ce qu'on rentre dans du standard, par exemple, une maison de 250 000, 300, ou un bloc, un 6 logements, par exemple, à 600 000, ben, souvent, moi, je vais dire aux clients acheteurs et aux clients vendeurs qu'il faut qu'ils s'attendent qu'il va avoir de 1 à 2% de la valeur de la propriété en entretien. Il va y avoir des thermos à changer, il va y avoir des fenêtres à changer, il va y avoir des patios à refaire, il va y avoir des chauffe-eau à changer. Ça fait partie d'un entretien standard d'un immeuble. Le rapport d'inspection est là pour te donner l'état de santé du building. Vient dire que certains correctifs ou éléments qui sont importants à changer ou à prendre en considération, mais ne devraient pas toujours servir seulement à renégocier. Si, par exemple, il y a des éléments majeurs, un problème de structure, l'entretoit, l'isolation, peu importe la situation de la vermiculite, assurément qu'il y a une position à prendre autant pour le vendeur que l'acheteur, parce qu'on arrive tout le monde avec une patate chaude, puis il va falloir régulariser cette situation-là d'une façon ou d'une autre. Mais d'aller en amont pour travailler, puis d'informer les gens, c'est là que le courtier immobilier vient faire réellement une grosse différence par rapport à tout ça. Fait que copy management, copy formation d'affaires, copy et Inc.
Copy, en fait, c'est notre copy brand. On offre plein, en fait, on est vraiment intégré en immobilier. Donc, service immobilier, formation en immobilier, on fait de l'investissement, développement immobilier, on nage dans l'immobilier.
C'est sûr que d'avoir l'occasion de pouvoir parler avec toi, Kevin, ça nous ouvre les yeux aussi sur les rôles de chacune personne. Merci de nous donner la vitrine pour les courtiers immobiliers. Je tiens à le dire pour tous les courtiers immobiliers de la région de Québec et de la province de Québec, parce que tu es aussi beaucoup sur Sherbrooke et Montréal. Copy Management, Kevin Pépin, si on veut avoir plus d'informations pour consulter vos capsules, vos chroniques, à quel endroit qu'on va?
KPMaffaires.com, vous allez retrouver notre plateforme, ou Copy Management pour notre site, pour nos services.
Merci beaucoup, bye bye.
La relève radio est à CGMD 96.9.
Vous êtes courtier ou investisseur immobilier?
Suivez la formation en ligne de Capé Formation d'affaires et accédez dès maintenant à des formations professionnelles, des études de cas, des quiz, des événements, des ateliers et au chiffrier le plus performant du marché. Un programme pour propulser votre carrière d'investisseur immobilier,
que vous soyez débutant ou avancé.
Accrédité par l'OACIQ jusqu'à 23 UFC.
Consultez les offres à durée limitée sur kbmaffaires.com.
Chaque jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le Publisac, sur notre site web au www.journaldelévis.com, sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
Item Construction et Rénovation. Item est une équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. Item vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z. Peu importe l'ampleur de votre projet, que ce soit pour une rénovation, un agrandissement, un ajout d'étage ou un garage, Item saura vous guider et vous conseiller afin de concrétiser avec succès votre projet. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez Item au 418 454 8834 ou visitez itemconstruction.com.
Plus capable de rester enfermé la larme à l'œil à regarder ton Jeep se morfondre dans ta cour? Club Jeep Québec est en pleine expansion et t'attend. Membre de la Fédération des clubs de 4x4 du Québec, nous organisons des activités légales et qui respectent les recommandations. Deviens membre gratuitement pour 2021 via la page Facebook ou sur le www.clubjeepquebec.com. Club Jeep Québec, là où les routes se terminent, notre plaisir commence.
Talk, rock et hip-hop.
Allô, je suis Guylaine et je voulais vous partager une expérience géniale avec l'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier. Nous avons essayé de vendre notre propriété depuis plus d'un an et nous n'avons pas eu de résultat, que ce soit par nous-mêmes ou avec un autre courtier. Nous avions été référés à l'équipe de Jean-François Morin par des amis qui eux aussi ont vendu leur maison rapidement avec leur équipe. C'est vrai aussi qu'on voit ses affiches et son marketing puissant partout aux alentours, mais aussi sur le web. On a rencontré Jean-François et son équipe et nous nous sommes vite aperçus qu'ils étaient très différents de ce que nous avions l'habitude de voir. Ils proposent un service professionnel, une expérience extraordinaire et on voit que leur marketing vend et que notre projet est pris entre bonnes mains. Ils sont excellents. Nous avons vendu en 13 jours à plus de 98 % du prix que nous avions affiché. L'équipe de Jean-François Morin, courtier immobilier, est vraiment incroyable. C'est un gros wow pour nous. On va faire comme nos amis et on va vous référer assurément.
Vous désirez de l'information sur l'immobilier? Vous désirez vendre? Vous désirez acheter? Contactez-moi directement, Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage, au 418-801-8011 ou sur notre site web, jeanfrancoismorin.ca.
Vous pouvez aussi nous joindre au 418-832-1001.
La bulle immobilière au 96.9. Alternative Radio.
Salut Kevin.
Salut Jeff, ça va?
Ben oui, ça va bien. J'aimerais ça que tu me parles comment qu'on va utiliser le levier après nos stratégies de partenariat.
Yes, eh bien, toujours dans nos capsules sur les 24 principes de base en investissement immobilier. On est rendu à capsule numéro 8. Donc, on se dirige de plus en plus vers la partie transactionnelle, stratégie et tout ça.
Quand est-ce qu'on achète?
Quand est-ce qu'on... Pas tout de suite. Pas
c'est
de
bon,
suite.
On prend le temps. Faut pas prendre le temps.
Exactement, faut prendre le temps, en fait. C'est parce que là, il nous reste... On a parlé des shares, on a fini par s'entendre tout ça. JF a accepté d'avoir 1%.
Merci, gars. Ça diminue au fil des épisodes.
C'est ça.
À la fin des 24, je vous fais un chèque, puis je m'en retire, c'est ça?
Exactement ça, tu vas nous payer. Mais c'est vraiment dans le fond de discuter les stratégies financières d'investissement en immobilier. Donc, il existe différentes stratégies. On va les garder le plus « keep it simple » pour la capsule. Mais la première chose, avant de parler de stratégie, il faut discuter de l'erreur de ne pas savoir ce qu'on cherche. Donc, de tout simplement se dire, OK, je veux faire de l'investissement immobilier, j'ai choisi que je veux m'acheter un siplex, je vais être avec un partenaire, je vais jouer tel rôle, on va splitter nos shares de telle manière, j'ai trouvé mon dream team et tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche exactement? C'est quoi la stratégie? Est-ce que je veux simplement acheter puis garder ça le plus simple au niveau de mes opérations? Est-ce que au contraire, je veux acheter et vraiment m'impliquer dans mes opérations et maximiser la création de valeur à court terme, à moyen terme, à long terme? Donc, c'est vraiment ça qu'on va regarder, les différentes stratégies financières d'investissement en immobilier. Donc, la première stratégie, on a la stratégie « buy and hold ». Donc, la stratégie buy and hold, en fait, consiste simplement à...
Détenir l'immeuble sur une longue période.
On détient l'immeuble sur une longue période. Donc, super simple. La deuxième stratégie consiste en du buy, improve, hold. Donc, buy, improve, hold, c'est j'achète,
on optimise.
J'optimise et je détiens.
Puis, un coup qu'on optimise, là, est-ce que ça se peut que l'immeuble vient... sur la détention quasi obligatoire parce qu'on devient peut-être moins intéressant sur le marché?
Ben, en fait, tu peux répéter ta question.
C'est bon, ça. Mais je pense que t'as en tête.
Ben, tu sais, par exemple, on achète un 6 logements, 600 000, on l'optimise, on arrive avec une valeur économique à 900 000, on vient revendre l'immeuble, puis au lieu de le détenir, on veut revendre l'immeuble. Est-ce que ça se peut que ça devienne dans un marché très niché où ce qu'on va avoir beaucoup moins d'investisseurs qui vont être intéressés à acheter un immeuble déjà optimisé parce que le rendement va être moins élevé?
Ben oui, clairement. En fait, ben, je dirais que le rendement va être moins élevé, ben, on va le vendre à un taux global d'actualisation qui va être plus élevé. Parce que on va être prêt à acheter un actif plus cher en termes de rendement, taux global d'actualisation, si son potentiel est plus grand. Donc oui, en effet, si je mets en vente un actif sur le marché qui est déjà optimisé, je vais devoir le vendre à un TGA qui est plus élevé, donc qui offre un meilleur rendement sur la détention. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'optimisation, ben il n'y en a plus. Il va falloir attendre encore bien des années, à moins qu'il y ait une optimisation que on n'ait pas vue.
Ça, puis comme investisseur qui possède cet immeuble-là aussi, des fois la valeur agréée qui peut être reconnue pour fin de refinancement va être beaucoup plus intéressante que la valeur sur le marché qu'on peut avoir. T'sais, je sais pas, tu
définitivement
à un immeuble que j'avais fait l'optimisation l'année passée, que j'avais demandé de venir voir ici à Saint-Romuald. Puis au final, on se disait, si tu le mets sur le marché, t'es trop proche du neuf. T'es trop comparable au neuf, mais t'es pas un neuf parce que ton bâtiment date des années 80, t'as certaines composantes que t'as pas attaquées. Oui, t'as fait énormément de réno, t'as des loyers qui peuvent s'approcher du neuf, mais t'as une dépréciation qu'il faut reconnaître. Fait que ta valeur agréée pour faire un refinancement va probablement être plus intéressante pour faire un hold.
Exactement. Exactement. C'est une stratégie de buy approval. C'est sûr que ta valeur marchande ne sera pas en réalité la vraie valeur de si tu le revendais sur le marché. Autrement dit, que le marché va attribuer va exiger en fait un rendement beaucoup plus élevé sur la détention pour un actif qui est déjà optimisé. Et effectivement, ton comparatif avec le neuf est super important parce que si tu optimises tellement un immeuble, admettons par une stratégie de rénovation, tu l'as tellement rénové qu'à un moment donné, ton taux global d'actualisation, oui, va être comparable à des actifs neufs, mais ultimement, un acheteur serait bien plus avantagé de s'acheter un actif neuf parce qu'il va avoir un amortissement plus long. Le capex sur la bâtisse va être moins grande que si tu achètes du use, là, où est-ce que tu vas avoir nécessairement. Tu as déjà une dépréciation, comme tu as mentionné. Donc, effectivement, buy, improve, hold, c'est une stratégie où est-ce que ta valeur marchande va être beaucoup plus utilisée au financement. Cependant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que peut-être que tu peux faire du buy, improve, sell. Donc, tu peux acheter, optimiser, revendre. Et tu le sais qu'à la revente, déjà dans ta modélisation, tu vas le vendre à un taux global d'actualisation qui est beaucoup plus élevé. Fait qu'autrement dit, tu vas le vendre à une perte comptable. Donc, si, exemple, dans tes livres, ton actif, tu as une belle évaluation agréée, un taux global d'actualisation, par exemple, de 5%, tu décides, mettons, on reprend notre exemple de notre 6plex, là, à 600 000 $. On l'a optimisé, on l'a amené à 1 000 000 $ en valeur marchande. Donc, papier, on a un rapport d'évaluation qui nous donne 1 000 000 $. Cependant, on sait que ce 1 000 000 $-là, vu qu'il est déjà optimisé, il vaut pas vraiment, mais qu'on l'a déjà calculé qu'à 900 000, on sait qu'il va partir parce qu'on le vend vraiment à un taux global d'actualisation qui vaut la peine. Eh bien, peut-être que d'un point de vue taux de rendement interne, qui est selon moi une métrique qui est beaucoup plus précise pour calculer son rendement financier, mais en le vendant, en payant l'impôt à la vente, puis en gardant vraiment la partie liquide de notre équité, mais finalement, ça donne un taux de rendement qui est intéressant.
OK, parfait. Est-ce que tout le monde saigne du nez ici?
Bien, non, c'est sûr que quand on rentre dans les stratégies financières d'investissement, là, c'est sûr, on garoche comme plein de noms, plein de métriques et tout ça. Mais tu sais, en réalité, c'est simple. Ça, t'achètes pour détenir, donc tu vas juste gérer les opérations. Ça va être, moi, ce que j'appelle un bateau de croisière. Donc, ça va être calme, si on peut dire, là, même si faire de l'investissement immobilier, c'est pas vraiment passif. Là.
Totalement calme.
C'est ça. Mais c'est déjà plus calme que si tu l'achètes et que tu décides de vouloir l'optimiser pour ensuite de ça, finalement continuer de le détenir dans ton portefeuille. Ensuite de ça, tu peux l'acheter pour l'optimiser, pour le revendre. Ou tu peux simplement acheter et revendre. Donc là, c'est j'achète un immeuble, je ne veux pas avoir à l'optimiser ou quoi que ce soit, mais je sais que je l'ai payé à un prix très intéressant par rapport à son potentiel d'optimisation et je sais qu'un autre acheteur va être prêt à le payer beaucoup plus cher que ce que je l'ai payé. Pourquoi? Parce que je peux l'avoir acheté beaucoup plus rapidement que quand il est sorti sur le marché, je l'achète très rapidement. Il y a un potentiel d'optimisation que personne n'a vu. Fait que moi, quand je le remets en vente, bien évidemment, je l'expose avec ce potentiel d'optimisation-là. Donc, ça peut être aussi une stratégie.
Puis c'est souvent une création de valeur qu'on va venir donner à l'immeuble, justement. Là. T'sais, on a un 6 logements à 600 000. Voici les modélisations de logement. Voici les loyers futurs que vous êtes capable de faire. Puis un coup qu'on arrive à tout ça, bien, vous allez être en mesure...
Ou le terrain qu'on peut diviser.
Exact.
Présenter le potentiel, c'est ce qu'on peut appeler quasiment un flip pur.
Exactement.
Pur et dur, finalement, sans toucher à l'immeuble.
Exactement ça. C'est carrément comme un genre de flip un peu qui n'existe pas encore parce qu'en réalité, ce que tu vends une prime à ton acheteur qui, lui, va être prêt à payer cette prime-là pour faire le potentiel d'optimisation. Ouais. Et ensuite de ça, on a évidemment la construction des tensions. Donc, je bâtis. Donc, là où est-ce qu'il y a la création de valeur, c'est principalement la construction. Donc, par exemple, je bâtis un bâtiment qui m'a coûté au total terrain, construction, $1 million. Et je m'assure de générer un gain d'équité à la construction. Donc, dès la fin de la construction, j'ai une évaluation agréée où est-ce qu'il dit que mon bâtiment vaut $1.2 million. Donc, dans ce cas-ci, j'aurais créé 200 000 de gain d'équité. Et je vais faire, étant donné que là, c'est une stratégie de construction des tensions, eh bien, je vais faire refinancer à ma pleine valeur et je vais venir faire financer, en fait, mon gain d'équité. Et finalement, on a la construction-vente. Donc, c'est simple. Je bâtis et je revends à des acheteurs qui veulent faire du buy and hold, donc qui veulent acheter un actif déjà stabilisé neuf.
Fait que toutes ces situations-là sont différentes stratégies qui vont venir définir votre profil d'investisseur aussi, puis savoir à quel endroit que vous vous situez sur votre prochain investissement, puis quel genre de rendement que vous allez vouloir avoir aussi.
Exactement. Et là, tu sais, on parle de stratégie, on parle de rendement, mais toutes ces stratégies-là viennent avec un niveau de risque. Et c'est très important d'attribuer le bon rendement au risque qu'on est prêt à prendre. Donc, faire un buy and sell ou buy and prove hold, c'est pas le même niveau de risque, mais pas du tout. Là. Il y en a un qui va avoir beaucoup plus d'efforts que l'autre, beaucoup plus de risques à prendre. Il y en a un qui va durer sur une période de temps plus longue qu'un autre.
Plus de liquidité aussi.
Plus de liquidité. Donc,
ça rajoute au risque.
Ça rajoute au risque. Donc, toute cette notion-là de temps et d'argent est à prendre en compte dans l'analyse du risque. Donc, la stratégie doit être adaptée, mais ce qu'on recherche en termes de rendement aussi doit suivre par rapport au risque.
Cool. Merci beaucoup, Kevin. Si on veut avoir plus d'informations sur KP Formation d'affaires, on consulte à quel endroit?
KPMaffaires.com. Vous allez retrouver l'ensemble de notre plateforme. Donc, plateforme d'ailleurs.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.